Bonjour. Donc, ouvrons nos Bibles ensemble dans Romains, le chapitre 8. Donc, nous allons commencer la lecture au verset 9 jusqu'au verset 11. Donc, Romains, chapitre 8, versets 9 à 11. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Merci. Michel?
Bien, c'est une Florence Croche qui vous parle. Et j'espère que c'est une Florence Croche qui s'adresse à des Florence Croche. Un autre homme m'a dit une fois dans l'histoire, je ne me souviens plus, j'essaie de me rappeler de la citation, qui disait, un prédicateur qui arrive en avant, puis il dit, « Je suis un homme pécheur qui s'adresse à des hommes pécheurs. » On a de quoi en commun? On est en train de vivre notre vie chrétienne ensemble. Et c'est notre troisième semaine, et Trevor va continuer sur ce thème du grand chapitre de la Bible qui est Romains 8, sur la sanctification, la doctrine de sainteté dans la marche du croyant. Et vous savez, on a vu la semaine passée les portraits robots des deux. Et cette semaine, on va voir le passé, présent, futur. Mais j'aimerais qu'on réalise ensemble ce thème extrêmement important, qui est le thème de la sainteté. Dans une époque où c'est deux filles le matin, ou si tout le monde en parle, ou c'est les spécialistes de cette époque qui est en train de nous dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qui est en train de nous dire ce qui a du bon sens, ce qui n'a pas de bon sens, qui est en train de nous donner une mentalité et qui sont là comme des prédicateurs, des grands spécialistes, en train d'enseigner ceux qui nous entourent, nos contemporains, afin qu'ils puissent avoir des vies heureuses, comblées, émancipées, et qu'ils puissent trouver au travers de tout ce brouhaha de ce monde une certaine relâche des épreuves, des temps difficiles. Et là, les gens les écoutent, les chrétiens les écoutent, et on vient un peu mélanger en ce qui concerne le bien et le mal. Lorsqu'on parle de sainteté, on peut être accusé d'être pharisien, voulant mettre les gens sur la loi. Lorsqu'on parle de sainteté, on peut être accusé, tu vas bien trop loin, on a une liberté chrétienne. Lorsqu'on parle de sainteté, on peut aussi dire, ah, on ne sera jamais saint parfaitement, donc mangeons, buvons, car demain nous mourrons. D'une manière ou d'une autre, moi j'ai Jean 3,16 dans mon portefeuille, je suis sauvé pareil, je vais vivre ma vie comme si Dieu n'existerait pas, je suis sauvé pareil. Avez-vous remarqué, lorsqu'on présente l'Évangile à quelqu'un, c'est arrivé dernièrement à moi et Diane, et lorsque on présente le salut par grâce, par le moyen de la foi seule, dans le sacrifice de Jésus-Christ, pour avoir la vie éternelle, la prochaine question, savez-vous ce que c'est qui vient sur la table? Tu veux-tu me dire que tu peux devenir chrétien, puis vivre n'importe comment, puis tu vas aller au ciel pareil? C'est ça qui vient. Les gens ont bien de la misère à comprendre. Comment peux-tu te péter les bretelles puis dire que tu es sûr d'aller au ciel, même si tu vis n'importe comment? Ça n'a pas d'allure. Et dans Romains 6, d'ailleurs, on le dit. Romains 6, 1 et 2 dit ceci. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là! Et nous sommes, depuis ce temps, en train de réfléchir ensemble sur ce loin de là. Loin de là. Vous savez, lorsqu'on parle de sanctification progressive, on parle d'un processus. Mis à part pour Dieu, nous sommes saints. Mis à part, littéralement le mot veut dire cela, mis à part pour Dieu. Une sanctification progressive nous parle d'une sainteté, d'une marche dans la lumière, une marche qui glorifie Dieu, une marche qui prend pour vérité ce que Dieu déclare bien et ce que Dieu déclare mal. Et l'autorité de tout enfant de Dieu né de nouveau, c'est la parole de Dieu et non pas la dernière mode des spécialistes de ce monde, des prédicateurs de ce monde. On est en train de parler d'un cheminement. Et on doit être honnête, c'est un cheminement, oui, d'obéissance, mais aussi un cheminement de désobéissance, comme un accident, et non pas un style de vie. Et lorsqu'on regarde nos vies chrétiennes, on doit être honnête. C'est en dents de scie, hein? On dirait que le Seigneur nous fait vivre des affaires les dernières semaines. J'ai vécu des affaires que, s'il faudrait que ça serait sur le tableau, j'irais en Afrique mourir sous une roche à quelque part. Le Seigneur nous rappelle que nos vies chrétiennes, c'est un combat pour honorer Dieu et d'être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et on sait que cette transformation-là va arriver lorsqu'on va voir Jésus face à face. Alors, on va le connaître comme qu'il nous a connus, 1 Jean 3, 2. Nous sommes en train de vivre une vie comme cela. Et c'est pour cela que les gens qui entendent l'Évangile, on leur présente le salut par la foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle, vont nous poser comme question, « Ah oui, comme ça, tu peux faire ce que tu veux, tu vois au ciel pareil. » Attends un peu. On a parlé dans les deux dernières semaines de où est-ce qu'on va porter notre affection. Où va notre amour? Où va notre mentalité? Où va notre manière de penser? Où va notre attachement? Parce que ce matin, je veux parler à vous, je veux vous parler cœur à cœur. Il y a un homme qui disait, je vais vous parler tête à tête, mais vous remplir la tête. Mais vu que je vise le cœur, je vais vous parler de cœur à cœur. Humains, pécheurs comme vous, humains, pécheurs. Des forens, croches, en train de se faire redresser par des clous. Puis ça fait mal des fois. Et des fois, on a des chutes, on a des luttes. On a des défaites, mais on a des victoires aussi. Mais quelle est ma mentalité, ma manière de penser, ma manière de vivre ma vie? Où est mon affection? Dans ma vie, j'ai connu des victoires. On peut s'identifier à mon petit bonhomme, il marche, il est sur le top, ça va bien, j'ai une victoire. La tentation a cogné à ma porte, j'ai dit non, j'ai une victoire. Mais je dois vous dire, à ma honte, que dans ma vie, j'ai eu des crises spirituelles aussi. Endormi sur mon cœur, sur mon sort, m'apitoyant sur moi-même, pensant bien des choses, où je marchais en envers, les deux yeux fermés, pensant que je voyais très, très clair. Il y a des temps dans notre vie, ça arrive ces choses-là. Et mes amis, ça prend du courage. Parce que lorsqu'on dit qu'on est de ceux par amour pour Dieu, par amour pour les autres, on marche dans cette vie remplie de l'amour de Dieu, que Dieu a déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, Romains 5, 5, je laisse tatouer dimanche. Nous avons cette capacité par la puissance de l'Esprit, par grâce de marcher en honorant Dieu, en sachant quoi faire avec le péché lorsqu'il arrive. Il y a un mécanisme de pardon dans la Bible qui n'est pas notre sujet ce matin. On est de ceux qui marchent dans la lumière. On est de ceux qui marchent et nous savons qu'on a cette qualité d'amour imprégnée en nous, qui c'est une qualité d'amour dénuée d'égoïsme, un amour qui est prêt à payer le prix, un amour qui est prêt à souffrir et un amour qui dure longtemps, jusque dans l'éternité. Dites-vous souvent, Seigneur, Seigneur. C'est drôle, quand j'étais en train de faire ça, je pensais à une histoire que Doug avait contée ici il y a plusieurs années. Il avait été fait son changement d'huile sur le boulevard des Forges. Puis il avait vu une femme qui était là, puis elle disait Seigneur, 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 Seigneur tout le temps. Puis c'est une bonne question. Pensez-vous que le fait que vous dites Seigneur, Seigneur, ça garantit de quoi, ça? C'est presque épeurant lorsque tu regardes dans le Nouveau Testament ce qui dit ça. Avez-vous remarqué? Matthieu 7, 21-22. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Seigneur, Seigneur, Matthieu 25, verset 11, lorsqu'il parle de ces vierges qui attendent, plus tard, après tout cela, les autres vierges virent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte, ceux qui étaient laissés. Il y en a beaucoup qui disent Seigneur dans le Nouveau Testament. Luc 6, 46, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Des bonnes questions. Bonne question. Voyez-vous, on peut en sortir des paroles de nos babines, mais si les bottines ne suivent pas, ça ne va pas à nulle part. C'est ça qu'il faut comprendre. Lorsqu'on est en amour, passionnément, tout change. Même j'ai entendu un jeune marié ici hier. Le gars qui il voulait dire avec le temps, il n'y a personne de parfait dans le mariage. Te souviens-tu? il a lâché un cri. Imparfaite! Parfait. Seigneur, Seigneur. L'amour, ça distorsionne. Mais l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu, c'est une manière de voir passionnément les choses que Dieu voit. Voir la vraie vie comme Dieu la voit. Voir les problèmes comme Dieu voit les problèmes. Voir les solutions comme Dieu voit les solutions. Être en amour avec Dieu veut dire qu'il y a une relation qui va se faire et on va connaître Dieu et on va grandir et ensemble, on va mieux se connaître et on va être une même plante ensemble, on va grandir ensemble, puis on va être en amour. Dieu l'a prouvé son amour envers nous lorsqu'il a envoyé son Fils. Et le Fils a prouvé son amour lorsqu'il est resté cloué sur la croix. Puis on sait fort bien que ce n'est pas, n'est-ce pas, les clous qui l'ont tenu, mais l'amour pour nous autres. Si vous n'êtes pas passionnément en amour avec Dieu, votre Sauveur, votre Maître, que vous ayez la tête remplie de versets, que vous disiez les mots de la manière que vous voulez, ça peut être juste la surface. Dites-moi où est-ce que vous mettez vos énergies, votre argent, vos talents, votre temps, je vais vous dire ce que vous aimez le plus. Avons-nous le courage? Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez désapprouvé? Ça prend du courage de se regarder dans le miroir et dire, je vois ce que je vois et je l'accepte. Je ne suis pas un lion, je suis un timinou. Et des fois, on distorsionne les miroirs comme dans un cirque. Hein? On arrive au cirque, dans ces places-là. Hey, là, je me trouve grand pis slim devant ce miroir-là. Puis un autre miroir me dit, j'ai 4 pieds de haut puis 4 pieds de large. Ça veut qu'il faut être cruellement honnête envers nous-mêmes. Puis là, comme la semaine passée, quelqu'un m'a dit qu'il pensait à quelqu'un d'autre. Faites pas ça quand je parle de moi. Faites ça. Quand j'ai préparé ça, là, je regardais mon propre cœur. Puis je disais à Trevor dans la prière un matin avant de venir ici. Et ça, là, j'aurais aimé sauter ce dimanche-là. Parce que j'ai vécu des affaires cette semaine tellement difficiles. Qui m'a rappelé. Michel, regarde dans le miroir. Regarde dans le miroir. Donc, notre texte ce matin, on saute dedans. C'est intéressant. Dans notre texte, on a trois temps. Passé, présent, futur. Et c'est intéressant de voir ces versets parce que ça nous rappelle, à fin de compte, que le Seigneur est en contrôle. Que nous qui avons placé notre affection dans les choses de l'Esprit de Dieu, nous qui nous regardons comme morts au péché, comme vivants pour Dieu, nous qui savons qu'on n'est plus des esclaves du péché, mais qu'on est des esclaves de Jésus-Christ, soumis à notre Maître. Nous qui avons le Saint-Esprit en nous. Dieu, dans ce grand chapitre de Romains 8, ce chapitre de sécurité éternelle, ce chapitre qui est tellement beau, nous rassure de notre passé, présent, futur, malgré les épreuves. Puis les tuiles qui nous tombent sans tête. Malgré les crises spirituelles qui arrivent comme un accident et non pas un style de vie, Dieu nous donne la joie. Enlevez les. Vous avez la dalle, là? Dieu nous donne la joie de lui appartenir au travers de toutes ces choses-là. Et quand vous lisez des biographies d'hommes de Dieu, remarquez l'épreuve et la joie dans l'épreuve. Non, ah, je suis content d'être brûlé, you, je vais faire une chandelle. Non. Mais sachant qui ils sont, regardez bien, sachant qui ils sont, ils montent sur le bûcher, puis ils se donnent des coups de poing sur l'estomac en se disant, Seigneur, tue la chair. Et sa femme est dans la ligne, là, avec 12 enfants, un à la mamelle. Puis lui, il monte sur le bûcher parce qu'il n'a pas voulu renier Christ. C'est un homme qui croit que Dieu a affaire d'une manière directe avec son passé, son présent, son futur comme enfant de Dieu. Notre passé qui se répare pour vous, Romains 5, 1 à 21, la paix avec Dieu. Chapitre 5, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on lisait? Sans force, impie, pécheur, ennemi de Dieu. Verset 10, qui termine par ennemi de Dieu. Dans chapitre 5, pour vous, c'est fini. Vous êtes justifiés, vous êtes en paix, vous êtes réconciliés, vous êtes sauvés. Dans les 10 premiers versets, on voit tous ces qualificatifs-là. Pour vous, les sauvés, justifiés, en paix, réconciliés, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que votre affection, c'est vers les choses de l'Esprit de Dieu et non pas vers les choses de la chair. Et vous allez comprendre le cri de Romains 7. Paul qui lâche ce cri, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Verset 25. 24, c'est-à-dire. La réponse est là. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Délivré de l'esclavage du péché. Je ne suis plus redevable ni endetté au péché. Oui, on a une prédisposition. Ce principe du péché est encore en nous. Je l'ai ressenti, je combats avec. Ma vie a des dents de scie aussi, comme vous. Mais mon affection, ma passion, mon amour, c'est pour les choses de Dieu et sa parole me nourrit, son esprit me soutient et sa grâce me donne de marcher un jour à la fois parce que mon affection sont dans les choses de l'Esprit de Dieu. C'est fini ça, moi, mettre mon affection dans les choses de la chair. Chair, compte plus sur moi pour jouer ton jeu et danser à ta musique. De prendre ta moralité, de prendre tes penchants naturels et en faire le but de ma vie. Il faut tomber en amour avec Dieu, en amour avec notre Sauveur et Maître Jésus-Christ. Et tout est changé, tout est changé. On est des nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Dans quel sens? Dans le sens que je ne vois plus les choses de la même manière. La parole de Dieu m'éclaire. Et plus que je m'approche du Seigneur, plus que je vois que je suis une foraine sous tout croche. La sainteté dans la sanctification, je ne vais pas commencer à prêcher en anglais, la sainteté dans la sanctification, ce n'est pas une option. Sans la sanctification, personne, nous dit l'Épître aux Hébreux, ne verra le Seigneur. Cette fausse sécurité de s'asseoir dans une église évangélique, pensant que le fait d'être assis ici, vous êtes correct, c'est faux. L'ivraie et le blé poussent ensemble, nous dit les évangiles. Jésus dit, c'est les anges qui font le triage. Galates 2:4 nous parle des faux frères qui épient la liberté des chrétiens dans l'Église. Et tout le premier siècle, si on lit l'histoire, on voit ces gens qui combattent Christ dans l'Église même. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. C'est fini de vivre selon la chair. C'est plus mon style de vie. C'est plus mon accoutumance comme autrefois. Mais l'Esprit. C'est du moins. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas. Il va revenir dans 8:23 avec ça aussi. La rédemption des corps. Est-ce qu'on est en train de penser que jouer à l'église évangélique, on est correct pour l'éternité, on se met un doigt dans l'œil? Où sont nos affections? Ironside, il compte une histoire. Il était d'un train, un Canadien, il est mort en 51. Il est aux États-Unis. Il était d'un train, et puis il arrive une femme, une gitane, pour y tirer sa bonne aventure. Puis cette gitane-là, elle dit à Ironside, elle dit, « Je vais vous prédire votre passé, présent, futur. » Et dans une histoire longue, en fin de compte, il dit, « Ben moi, je l'ai déjà, mon passé, présent, futur. » Vous savez ce qui est sorti dans ses poches? Un petit livre qui s'appelait « La Bible ». Il a commencé avec Éphésiens 2. Vous étiez morts dans vos offenses, dans vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde. Passé. Présent, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don gracieux de Dieu. Et futur, ressuscité avec Christ pour l'éternité. Passé, présent, futur. Et Romain nous présente dans ses textes le même tableau. Notre présent, verset 10. Regardez bien. Et si Christ est en vous, le corps, soma, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. On l'a vu dans le chapitre 6, verset 13. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme vivant des morts que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Et le mot-là, c'est « hopla » dans l'original. Des armes, des instruments. Ces mains-là qui autrefois faisaient le mal selon la mentalité du monde, selon l'affection que j'avais pour les choses de ce monde, ces mêmes mains aujourd'hui font les choses justes. Ces yeux qui autrefois étaient utilisés pour le péché sont maintenant utilisés pour Dieu. Voyez-vous l'idée? C'est tout ça qu'il est en train de nous dire. Ce corps est un instrument que Dieu se sert. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je suis le temple du Saint-Esprit. On n'est pas des poubelles. On n'est pas des panneaux indicateurs pour publiciser le système de ce monde. On est des enfants de Dieu, des citoyens des cieux, où on attend notre Sauveur et Maître. Notre présent est extraordinaire. Notre présent, c'est la plus belle aventure de nos vies terrestres. Vivre pour Christ dans un monde de ténèbres. Être une lumière pour éclairer. Être de ceux qui marchent pour Dieu sous sa bannière. D'être de ceux qui ont en eux-mêmes le Saint-Esprit de Dieu. En eux-mêmes, ont la parole de vie, le partage de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous avez potentiellement cette semaine, potentiellement le privilège de rencontrer quelqu'un cette semaine qui ne connaît pas Christ et vous avez en vous le message de l'Évangile. Dieu a changé votre vie. La rencontre avec Christ a saisi vos âmes et ça a produit une repentance selon Dieu, une tristesse qui mène à la vie. Et vous êtes devenu enfant de Dieu. Je vous lance le défi cette semaine. Je disais à quelqu'un l'autre jour, si chaque personne ici ce matin dirait, cette semaine, je vais partager ma foi avec une personne, rien qu'une, dimanche prochain, on s'en reparle. Vous allez vivre une aventure extraordinaire. Vous voulez voir des chrétiens marabouts qui coupent les cheveux en quatre? Bien, regardez-les bien aller, là. Ils ne partagent pas sa foi avec personne. Il est trop concentré sur son nombril. Puis il est hypnotisé par ses problèmes. Puis il vit une crise spirituelle. Partagez notre foi. Partagez ce trésor qui est en nous, le présent. Parce que ces outils que nous avons, ces instruments que nous avons, nos pieds, nos mains, notre langue, nos yeux, nos oreilles, sont maintenant à Dieu. Dieu est le boss. Ça lui appartient. Donc mon affection, c'est vers Dieu et non pas vers la chair. Notre corps sous l'influence du Saint-Esprit. Et là, on tombe dans Galates avec la plénitude du Saint-Esprit et les 9 résultats de marcher selon le Saint-Esprit. J'ai gardé 2 citations. Tous ceux qui ont la puissance de la sainteté dans leur cœur ont cette inclinaison et le cœur est exercé vers Dieu et les choses divines. Une telle force et vigueur permet à ces exercices de sainteté de surpasser les affections charnelles ou naturelles pour tout disciple de Christ. Cette affection que nous avons pour Dieu, cet amour pour Dieu, surpasse et nous emmène dans la sainteté. Dans des exercices de sainteté, c'est-à-dire ce que je fais avec mes mains, mes yeux, mes pieds, surpasse ce corps de chair qui veut me ramener dans une prédisposition à désobéir à Dieu. Tout exercice demande de l'huile à bras. Êtes-vous d'accord avec ça? C'est pas facile, hein? Je vous dis qu'un exercice de sainteté est aussi difficile qu'un exercice physique. Quand je pars faire mes marches avec Diane, je pars en me donnant des coups de pied dans le derrière, ma marche de santé. Puis quand j'arrive, je suis donc fier de moi. Ah, je suis content. Cette inclinaison vers la sainteté, cette puissance de sainteté dans mon cœur, à cause de mon amour pour Dieu, qui va rejoindre, comme la semaine passée, je disais, l'amour de Dieu, l'amour pour les autres. C'est cette motivation qui nous fait faire des exercices de sainteté, l'inclinaison, the bending of the will pour les Anglais. Où ce que Dieu, par la puissance de l'Esprit, plie ma volonté dans sa sainteté, de sa souveraineté, à cause de mon amour passionné, complice avec Dieu, pour m'affectionner et faire des exercices de piété, de sainteté, mis à part pour Dieu. Où que mon corps va servir pour qu'est-ce que Dieu qui servent. pour cela qu'on n'est pas tout de suite rendu au ciel lorsqu'on se convertit. Il nous laisse cette terre, il aurait pu choisir des anges avec des bouches en haut-parleur, puis envoyer un DVD à partout dans le monde entier, dans toutes les langues. Il a choisi des véhicules comme nous. Des véhicules comme nous. C'est intéressant la prédication de Paul. J'ai prêché. Regardez bien. Je vais le faire rapidement, mais qu'est-ce que Paul prêchait? La semaine passée, on a parlé de ses saluts. Je lisais une place, il disait, « Si tu te fais frapper par un char, pense en Jésus, puis tu vas être sauvé. » Paul, il dit, « Mon message de l'Évangile, je prêchais la repentance. » Pourquoi? À cause de la gravité du péché qui, premièrement, est une offense à Dieu. Tout péché est une offense à Dieu. Il a prêché la conversion, un changement de vie radical. Et Jonathan Edwards dit la même chose. Et Whitfield et tous ces grands hommes du réveil, quand la parole est prêchée et le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, il y a un changement radical de vie. Son affection change, son amour change. Puis il a prêché la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Les œuvres ressemblent à cette repentance, à salut. L'apôtre Paul va dire à Tite, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Paul à Timothée va dire, « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, et avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur, il y a quelque chose qui vient avec. » Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Cette tendance à s'éloigner de l'iniquité plutôt que s'envelopper de l'iniquité, comme si c'est normal. Voyez-vous? C'est deux mentalités différentes qu'on voit dans Romains 8. L'apôtre Jean va dire « La semence de Dieu est en lui. » Il va dire « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, présent, actif, infini, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. » Regardez le texte traduit par QN, qui est un peu plus, c'est pas une vraie traduction, mais c'est plutôt un commentaire. « Celui qui dit par la nouvelle naissance est devenu enfant de Dieu ne continue pas à pécher, car le principe de vie qui vit en de Dieu demeure en lui. » Il est incapable de s'adonner au péché puisqu'il est né de Dieu. Il ne peut pas s'adonner au péché exactement de la même manière qu'il faisait avant de se convertir. Avant de me convertir, j'étais le meilleur des voleurs. Un coup, je suis converti, j'étais encore meilleur comme voleur. Vous comprenez? Je donne un exemple. Non, non. On ne s'adonne pas au péché comme si on ne serait pas sauvé. Et toutes les décisions qu'on prend, on ne prend pas toutes les décisions anti-Dieu. Non, notre affection n'est pas là. Notre affection est vers l'Esprit de Dieu. Ce que Dieu dit, ce que Dieu en pense. Il y a des gens qui prennent des décisions, même si Dieu voudrait, il ne pourrait même pas les bénir. C'est anti-Dieu complètement. Il se demande pourquoi que leur vie est toute perturbée. Alors, William Barclay va dire, « Jean exige non une vie de perfectionniste, mais une vie dans laquelle le péché est une exception. » F.F. Bruce va dire ceci, « Péché, c'est contre nature pour un enfant de Dieu. Ce qui pratique le péché nie la présence de la nature divine en lui à cause de la semence de Dieu. » Et lorsqu'on voit le mot « pratiquer », c'est le temps des verbes. Continuer continuellement, c'est comme si Dieu n'existait pas. Stott va dire, « Il émane une forte pression interne vers la sainteté. » Et un danger qui guette dans nos crises, c'est de minimiser la puissance du péché et la destruction du péché et les ravages du péché dans nos vies. Qu'on est d'un siècle comme ça. Le futur, on l'a dans le dernier verset, terminé. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Celui qui est ressuscité Jésus. Imaginez, on va être ressuscité aussi. Mon passé n'a plus d'affaire à moi, mais je suis mort. Mon présent, c'est que je vis par l'esprit et j'affectionne les choses de l'esprit. Mon futur, c'est ce corps qui est maintenant des instruments dans mon présent. Je vais le quitter. La rédemption de nos corps, Romains 8, 23. Voyez-vous comment Paul, dans sa logique du grand chapitre, qu'on pourrait dire de sécurité éternelle, ne dit pas que la sécurité éternelle, qui a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui pensent que d'être sauvés, c'est une formule magique. Ou une pensée magique. J'appelle ça la pensée de Harry Potter. C'est pas ça le salut. Le salut, c'est naître de nouveau, avoir le Saint-Esprit de Dieu, être rempli de l'Esprit de Dieu, de savoir que notre corps ne nous appartient plus, qu'on est le temple du Saint-Esprit et que Dieu veut utiliser notre corps entier pour être dans notre présent une lumière pour les nations, un honneur pour lui et il attend de son peuple de l'adoration. Je demandais à Julien de venir tout de suite. Excuse-moi, Julien, je viens de voir l'heure. Non, je viens de compter une menterie. Je l'avais vu tout à l'heure aussi. Mais là, je réalise qu'il est tard. Voyez-vous comme c'est facile de compter une menterie? Voulez-vous me pardonner? Merci. Je vous dis qu'on est vraiment tordu, hein? Vrai Forens? On va chanter, Julien. On va chanter. On se lève debout si vous êtes. Pardonnez-moi pour le temps.
On chante au complet, du début, être saint. Être saint, être saint,
c'est mon désir.
Être saint,
ton image.
Être saint, être saint. Pourquoi?
prière, hein? J'avoue que c'est dangereux de dire amen à ça.
Amen.
Merci, les courageux. Que Dieu vous bénisse.